Bonsoir. L'Ituri est une province qui connaît depuis plus de 20 ans une insécurité récurrente due notamment à l'activisme des groupes armés. Les démarches entreprises par le gouvernement central sont en cours pour amener ces groupes armés à s'engager dans un processus de démobilisation, désarmement et réinsertion. Mais en dépit de cela, on enregistre quotidiennement des exactions contre les populations civiles. Comment expliquer la persistance du cycle de violence dans cette province et comment y mettre fin? Nous en parlons depuis la ville de Bounia. Vous l'avez compris, nous sommes dans la province de l'Ituri avec Adio Guidi, ministre provincial de l'Intérieur de l'Ituri. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Sober Aguedungla, professeur à l'université de Kisangani, il est spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de sociologie militaire et de géopolitique. Professeur, bonsoir. Et madame Marie-Noël Nialoka qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Elle est coordonnatrice intérimaire de la société civile de l'Ituri. Mais il y a aussi vous, population de Bounia, qui êtes très nombreux dans cette salle pour donner votre point de vue et vos propositions pour mettre fin à l'insécurité dans cette province. Bonsoir et applaudissez pour vous-même. Merci de nous suivre, partenaire DC sur la fréquence FM, et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, l'Ituri est une province qui connaît depuis plus de 20 ans une insécurité récurrente due notamment à l'activisme des groupes armés. Monsieur le ministre, comment vous expliquez cette persistance du cycle de violence dans cette province depuis une vingtaine d'années?
Oui, merci beaucoup madame. Il est vrai que depuis 3 ans, la province de l'Ituri fait face à un cycle de violence entretenu par une bilesse de forces négatives nationales et étrangères, notamment et à la cohorte de Brache de Codeco, active dans les territoires de Njugu, Irum et une partie de Maagi. Il faut signaler aussi l'activisme de FPIC dans les territoires d'Irumu. Au-delà des FPIC, nous avons enregistré l'activisme des éléments et contrôlés des FRPI dans les territoires d'Irum, sans oublier aussi une bilesse de Maïmaï qui écume la population dans la partie d'Irum, aussi de la partie sud d'Irum, et une partie du territoire de Mambasa. Sur place à Mambasa, il faut noter qu'il y a aussi l'activisme des braconniers à l'aise qui opèrent dans les foyers miniers, dans la RFO, la réserve de faune à Okapi, qui est une aire protégée. Au-delà de ça, dans un passé récent, madame, il faut signaler que dans les territoires d'Arou et la partie de Mag, il y a eu les incursions récurrentes de troupes étrangères, notamment la SPLA, pour la partie de Arou qui touche essentiellement la chefferie de Kakwa et Kaliko. Dernièrement, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu aussi l'incursion de l'armée ougandaise UPDF dans le territoire de Maagi, précisément dans la chefferie de Warpalara. Voilà, bref, cette cartographie de la sécurité, madame, a eu comme conséquence des...
Excusez-moi, monsieur le ministre, mais comment vous expliquez cet activisme, justement, des groupes armés dans la province?
Effectivement, cela se justifie par la présence de forces négatives, comme je venais de le dire. Malheureusement, la plupart de toutes ces forces négatives émanent d'une certaine communauté, madame, si on peut le dire ainsi. C'est ce qui a fait qu'il y a la persistance de ces conflits depuis bientôt 20 ans, comme vous venez de dire, le cas de FRPI par exemple. L'FRPI existe dans la partie d'Irum il y a de cela 20 ans. Aujourd'hui, si vous voyez très bien qu'ils sont dans un processus de déder qui prend du retard,
Où est-ce qu'on en est justement avec ce processus de DDR? Pourquoi ça prend du retard? Qu'est-ce qui bloque?
Pour le moment, il faut signaler franchement que ce sont les moyens financiers qui n'ont pas suivi le programme de DDR qui a été déjà engagé.
Donc pour le moment, le processus est suspendu faute des moyens. C'est ça qu'on retient?
Dire suspendu, c'est fort parce que toutes les parties prenantes jusque-là n'ont pas déclaré que les opérations sont suspendues. Si nous voulons parler des arrêts de ces activités, parce qu'il y a eu une vague de 31 miliciens de FPIC qui se sont déjà rendus à terme de mobilisation, mais l'opération devrait suivre. C'est ce qui a fait que ce soit au niveau du pouvoir central, le moyen qu'il fallait mettre à la disposition de nos éléments qui... Surtout les parties prenantes qui étaient chargées des questions de démobilisation, ce moyen-là, le manque de ce moyen-là n'a pas fait que le processus puisse continuer normalement. Mais avec plusieurs conséquences. À l'heure où nous parlons, les quelques éléments de FPI, disons de FRPI, qui sont d'ailleurs contrôlés, sont en train de se livrer soit au pillage, soit couper les routes par-ci, par-là, à travers les territoires du Roum, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train d'enregistrer dans ces derniers temps.
Monsieur Adjogidi, vous êtes ministre provincial de l'Intérieur de l'Ituri. Combien de groupes armés y a-t-il dans cette province? Est-ce que vous avez une idée sur le nombre des groupes actifs?
Pour le moment, il faut dire que ce sont une dizaine de groupes armés, parce que vous le savez bien, à part FPIC, il y a Codeco, à part Codeco, il y a une nébuleuse de maïmaï, je l'ai dit très bien. En dehors de ces maïmaï, il faut signaler aussi qu'il y a les ADF Nalu qui constituent une force négative étrangère. D'ailleurs, ils ont fui la pression militaire au nord Kivu, à l'heure qu'il est, ils sont actifs dans la partie des sites du territoire d'Irum. C'est là où ils se livrent à des exactions graves touchant la violation des droits de l'homme.
On enregistre quotidiennement des exactions contre la population civile dans la province de l'Ituri. Comment le gouvernement provincial, ou que fait le gouvernement provincial pour protéger cette population civile?
Le gouvernement, dans sa mission régalienne, est en train de mettre tout en œuvre pour protéger la population. D'abord, en soutenant la pression militaire, qui du reste est une des options meilleures pour aussi mettre fin à ces groupes armés. Au-delà de la pression militaire, le gouvernement provincial a initié une série de dialogues intra- ou intercommunautaires, parce qu'il faut souligner ici que toutes les milices, surtout qui écument la province de l'Ituri, ont un caractère presque communautaire. Je voulais dire que certaines communautés, si vous essayez de voir l'identité des acteurs de l'insécurité, vous allez vous rendre compte que cette appartenance communautaire, elle est là. C'est ce qui a fait que le gouvernement voudrait que chaque communauté prenne ses responsabilités en interpellant, en parlant correctement avec ses membres. Aujourd'hui, madame, on parle de Codeco. Si vous voyez très bien, au début de Codeco, on semblait dire que ce sont des assaillants, non autrement identifiés. Quelques temps après, on s'est rendu compte que non, ce sont des Codeco. Il y a plusieurs branches de Codeco, madame. Vous allez vous rendre compte qu'à l'heure où nous parlons, malgré que certains ont signé des actes d'engagement unilatéraux, il s'est fait malheureusement que si vous allez dans cette milice, vous allez trouver la plupart appartiennent à une des communautés que je voulais taire le nom ici. C'est pour cette raison-là. Vous allez voir, si vous allez dans le Tchiniakilima, vous allez vous rendre compte que si aujourd'hui il y a des communautés par-ci, par-là.
Donc chaque communauté a un groupe armé en Ituri.
Je ne voulais pas le dire, mais vous allez constater à travers la réaction du public qui est dans cette salle. Lorsque vous allez leur donner la parole, on va se compléter, vous aurez une idée sur ce qui se passe effectivement actuellement en Ituri.
Merci, Monsieur le ministre. On vous garde encore dans cette émission. On va passer la parole au professeur Jobert Aguenonga, professeur à l'Université de Kisangani. Professeur, vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de sociologie militaire et aussi de géopolitique. Comment vous expliquez cette persistance de l'insécurité dans la province de l'Ituri?
Bien, il faudrait souligner le fait que la persistance de l'insécurité dans la province de l'Ituri tient à une double variable. En d'autres termes, il y a deux niveaux de facteurs qui peuvent permettre d'avoir une lecture lucide, d'avoir une lecture perspicace de la persistance de l'insécurité ou même de menaces sécuritaires dans la province de l'Ituri. Alors, la première variable, c'est le déphasage de l'approche sécuritaire. En d'autres termes, l'approche sécuritaire qui est à l'œuvre contraste étrangement avec les dynamiques sécuritaires du dedans. Cela s'explique par le fait que lorsque les autorités congolaises, même leurs partenaires, abordent la question sécuritaire, souvent, l'approche militaire pèse lourdement sur la balance. Alors que dans les études de sécurité, nous ne cessons d'apprendre le fait que la sécurité est multidimensionnelle. En d'autres termes, la sécurité est la résultante d'une approche holistique. Donc, on ne peut pas aborder, n'est-ce pas, la question d'ordre sécuritaire uniquement sur la dimension militaire. Ça, c'est très important de le souligner. La sécurité doit aussi prendre en compte la détérioration, n'est-ce pas, des conditions sociales. Alors, tous ces jeunes qui sont recrutés aujourd'hui par les groupes armés, ils se trouvent dans une situation telle qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est ce chômage de masse qui fait à ce que ces jeunes deviennent une main-d'œuvre, n'est-ce pas, pour les entreprises subversives. Ça, il faudrait le dire clairement.
Ils sont mieux traités, ils sont bien payés.
Ben, ils sont mieux traités ou ils ne le sont pas. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ces jeunes, à partir du moment où ils ne font rien, ils sont clochardisés et ils sont abandonnés à leur triste sort, eh bien, ils sont laissés à la merci de vendeurs d'illusions qui, évidemment, leur fait des offres, quand bien même ces offres ne vont pas être, évidemment, accomplies. Mais il y a encore une autre dynamique qu'il faudrait aborder sous cet angle-là, c'est l'endoctrinement. Que ces jeunes, évidemment, qu'ils soient mieux pris en charge au sein de ces groupes armés ou pas, mais il n'en reste pas moins vrai qu'ils sont endoctrinés. Ça, c'est très important. On va l'aborder peut-être lorsqu'on va revenir sur la question de Codeco. Et là aussi, je voudrais apporter une précision. Donc, souvent, c'est peut-être par manque d'information que l'on assimile toutes les milices, n'est-ce pas, qui pullulent en Ituri à Codeco. Codeco, je n'ai cessé de le dire, n'est pas une milice. Codeco, ce n'est pas un groupe armé. Codeco, c'est une secte mystico-religieuse qui dispose d'une branche militaire qu'on appelle IRDPC. Et il n'y a pas que l'IRDPC qui constitue la seule branche militaire de Codeco, mais il y a un kaléidoscope d'autres mouvements, notamment l'ALC de Ngabungawi.
Mais lorsque ce groupe commet des exactions, tue la population, puis pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas classer ce groupe dans la catégorie des groupes armés?
Non, je voudrais apporter une précision. Je voudrais dire que Codeco est une secte. Ça, c'est très important. On doit partir de ce postulat selon lequel Codeco est une secte. Donc, quand vous allez dans Codeco, vous allez constater qu'il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs qui ne sont pas des miliciens. Ça, c'est très important. Mais cette secte-là dispose d'une branche militaire qu'on appelle IRDPC. Donc, les combattants font plutôt partie de l'IRDPC. Nous devons faire la part des choses. Mais au-delà de l'IRDPC, il y a un kaléidoscope d'autres mouvements qui ont fait allégeance à Codeco, notamment l'ARDP, c'est de Ngabunga, oui, mais aussi l'ALPC et de, comment dire, l'ALC du petit loup de la montagne. Mais on ne doit pas s'arrêter là-bas parce que nous avons également d'autres groupes qui sont établis dans Diassi Sud qui n'ont pas fait allégeance à Codeco. Donc ces groupes n'ont fait allégeance ni à Codeco, ni à l'IRDPC. Nous avons par exemple le FR, comment dire, FPDC, de M. Tchoui Matambala, nous avons le catholique, nous avons le bon temple dédié et nous avons bien d'autres groupes armés, voyez-vous. Donc, tout ça, ce sont des dynamiques que nous devons prendre en compte, mais tout en partant du postulat selon lequel, si on veut résoudre le problème des groupes armés, il faudrait absolument faire une démarcation entre la Codeco, qui est une secte mystico-religieuse, et les groupes armés.
Alors cet activisme de groupes armés semble se communautariser, comme l'a dit Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec lui?
La communautarisation, il faudrait plutôt la relativiser, parce que si on parle de la communautarisation, c'est que nous fondons nos arguments sur l'idée selon laquelle chaque communauté en Ituri dispose d'une milice, voyez-vous. Mais ce qui n'est pas du tout comment dire, ce qui n'est pas véridique, hein, parce qu'il y a d'autres communautés, notamment si nous allons à Mambasa, eh bien cette réalité ne se vérifie pas. Donc cette réalité est valable pour le territoire d'Ndjougou, mais là aussi il faudrait relativiser, parce que ce sont pas toutes les communautés du territoire d'Ndjougou, n'est-ce pas, qui ont au moins des milices qui prétendent assurer leur sécurité. Mais aussi, si nous venons du côté du Rumu, cette réalité doit être relativisée. Donc la communautarisation doit être considérée comme étant un risque si on laisse la situation pourrir. Mais pour l'instant, il est hors de question de dire que les groupes armés se communautarisent.
Professeur, je rappelle que vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de sociologie militaire et géopolitique. Certains observateurs estiment que la formation des FRDC serait aussi l'une des causes de la situation sécuritaire dégradante dans la province de l'Ituri, avec d'anciens miliciens intégrés dans l'armée sans aucune formation ni vocation pour devenir militaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, le dysfonctionnement de services de sécurité doit être considéré comme une autre variable qui explique la persistance de ces groupes armés. Je voudrais aborder quelques éléments de réflexion là-dessus. Lorsque nous prenons un peu l'approche militaire, n'est-ce pas, congolaise, l'on s'aperçoit que la République démocratique du Congo est appelée à affronter, n'est-ce pas, une milice dont le mode opératoire repose sur les techniques dites asymétriques. Ça, c'est très important. Alors que les militaires qui sont déployés sur le terrain, ils y vont plutôt avec une approche traditionnelle, ce qui pose énormément de problèmes. En d'autres termes, le fait qu'on ne maîtrise pas parfaitement le mode opératoire de ces groupes armés, ça peut poser le problème. Mais à cela, je voudrais aussi ajouter le sous-équipement de ces militaires. J'ai déjà été une fois sur le terrain, mais le constat est tel que ces militaires qui sont déployés sur le terrain, parfois ils n'ont pas de munitions. Ça, c'est un problème qui se pose avec acuité. La question de motivation. J'ai été une fois dans le territoire d'Ndjougou, mais le militaire disait que ça faisait plus de 7 jours qu'ils étaient en rupture de provisions. Voyez-vous, et aussi le sous-équipement sur le terrain. Nous voyons nos officiers rouler carrosse dans les grandes villes, alors que là où le problème d'ordre logistique se pose avec acuité, c'est à l'intérieur du territoire. Moi, je me demande pourquoi est-ce que on doit laisser les jeeps, n'est-ce pas, les véhicules de troupes dans les grandes villes, alors que le besoin s'est fait sentir à l'intérieur de nos territoires. Ça, il faut absolument une explication de la part de nos militaires. Mais je voudrais chuter par dire que aujourd'hui, nous devons, si nous voulons évidemment aborder la question des groupes armés, nous devons interroger les sources de ravitaillement de ces groupes armés. Et nos autorités souvent n'ont pas apporté des réponses claires à ces sujets-là. Voyez-vous, où est-ce que ces groupes armés se ravitaillent-ils? Ça, c'est très important. Parce que moi, j'ai été sur le terrain, je vis des miliciens, n'est-ce pas, habillés en uniforme de FRDC. Où est-ce qu'ils se procurent en uniforme de l'armée? Il y en a qui sont parfois lourdement armés, plus que même militaires. Donc ça montre quelque part qu'il y a une alliance contre nature.
Madame Marie-Noël Nialoka, vous êtes coordonnatrice intérimaire de la société civile de l'Ituri. Bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs et aux co-débatteurs.
Madame, comment vous, en tant que société civile, vous expliquez ce cycle d'insécurité dans la province de l'Ituri?
Merci, madame, de nous associer à ces débats. Ce n'est pas pour la première fois que nous partageons avec les auditeurs la question sécuritaire en Ituri. Nous ne cesserons de le dire jusqu'à ce que la population retrouve la paix. L'Ituri est abandonnée par le gouvernement central. Nous disons que la sécurité relève de la compétence exclusive du gouvernement central. Donc, vous allez retenir avec nous qu'il y a un délaissement de la population de l'Ituri par le gouvernement central, bien sûr, représenté à province par le gouvernement provincial. Deuxième élément, madame, nous allons aborder la question de l'affairisme dans le secteur de sécurité. Vous avez suivi le professeur dans son analyse. Ces groupes armés qui pillent en Ituri utilisent les mêmes effets militaires qu'utilisent les FARDC. Ils ont les nouvelles tenues, pour votre information. Parfois même nos militaires loyalistes détiennent des tenues qui sont à l'ambo. Ces groupes armés sont lourdement armés.
Est-ce que vous voulez dire qu'il y a une sorte de complicité entre les FARDC et ces miliciens, ces
groupes armés? C'est ce que nous n'avons pas dit. Nous disons qu'ils révèlent un affairisme dans le secteur de sécurité. Parce que nous, en tant que paisibles citoyens de la province de l'Ituri, il nous est difficile de comprendre et même de différencier les groupes armés aux forces armées de la République, étant donné que ces groupes armés utilisent les mêmes effets militaires. Et voilà, quand les FARDC partent sur le terrain, ils disent, ils partent les traquer. Mais écoutez, madame, il y a des fois où ce sont les FARDC qui abandonnent. Ce sont les groupes armés qui gagnent le terrain. Et ici, on nous fait croire que la situation est sous contrôle et qu'ils ont eu à mettre l'ennemi hors d'état de nuit. Or, cela n'empêche pas que la population continue à mourir. À ce jour où nous parlons, seulement pour l'année 2020, madame la journaliste, l'Ituri compte plus de 2216 personnes qui sont sauvagement tuées. Et d'autres cadavres sont même abandonnés dans la nature. Ici, nous donnons un bilan provisoire, étant donné que nous n'avons pas eu d'accès dans d'autres secteurs, dans d'autres lieux de drame, faute de l'inaccessibilité liées à la situation sécuritaire. À cela s'ajoutent plus de 263 personnes qui sont kidnappées, dont on ne connaît pas leur destination jusqu'à ce jour. Et n'en parlons pas par rapport au pillage des biens de valeur. La population perd journellement leurs biens de valeur, le pillage des bêtes, le pillage d'autres matériels et des destructions méchantes enregistrées partout. Comment expliquez-vous? Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un pays où toutes les institutions de la République fonctionnent. Mais comment on peut justifier le fait qu'il ne passe pas un seul jour en Ituri sans que l'Ituri compte les morts? À l'heure où nous parlons, peut-être parce que nos téléphones ne sont pas avec nous, nous allons toujours enregistrer les morts. Et j'en profite, madame, pour vous dire, la semaine passée, c'est plus de 30 personnes qui ont été tuées à Ituri. Et même hier, lorsque vous êtes ici à Bounia, c'est une façon de vous dire abandonné par le gouvernement qui détient les monopoles de la sécurité de la population.
Mais comment vous, société civile, quel est l'apport de vous, société civile, dans la recherche de la paix? Vous avez suivi le professeur tout à l'heure qui a parlé de la jeunesse qui a abandonné et préfère intégrer les groupes armés. Est-ce que vous, vous sensibilisez la jeunesse à ne pas aller adhérer à ce groupe armé?
Nous le faisons du jour au jour. Mais il y a des personnes qui sont rangées derrière cette jeunesse. Quand j'ai suivi l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre, qui a voulu se cacher derrière les communautés en Ituri, loin de nous les tensions de guerre communautaire en Ituri. Nous sommes très fâchés. Ça nous fâche quand on nous parle de la situation communautaire, des guerres communautaires, des groupes armés qui se cachent dans des communautés. Mais ces gens sont, ils sont instrumentalisés. Il y a des personnes invisibles qui sont très bien rangées derrière cette jeunesse. Comment expliquez-vous dans ce pays? Nous, quand on a étudié nulle part, on a dit qu'on fabrique les armes dans ces pays. Moi, encore en Ituri, les armes ne tombent pas du ciel, madame journaliste. Tous ces effets que ces jeunes utilisent pour massacrer leurs compatriotes ne tombent pas du ciel. Et ils ne sont pas extraterrestres. Et vous allez comprendre avec nous que même si nous sensibilisons et qu'il y a une main noire qui profite maintenant de la faiblesse de l'État, bien sûr, j'insiste, de la faiblesse du gouvernement central qui a le monopole de la sécurité et aussi le chômage qui est devenu une monnaie courante en RDC et en Ituri en particulier, ces gens peuvent manipuler le terrain parce que on les laisse faire, effectivement. Et n'eût été cet aspect de choses, je pense que cette jeunesse ne serait pas manipulée et l'Ituri ne vivrait pas la situation qu'elle est en train de vivre aujourd'hui parce que le chômage dont nous parlons n'est pas seulement en Ituri, mais aussi ailleurs. Raison pour laquelle nous voulons aussi ajouter que si aussi parmi peut-être les mobiles qui font en sorte que l'Ituri est plongée dans une situation de crise qui ne cesse de prendre fin jusqu'à aujourd'hui, aussi nous sommes confrontés par les ressources naturelles, parce que on ne peut pas expliquer tous ces groupes armés pilules tournés autour des sites miniers en Ituri, étant donné que c'est la province à 80% des ressources minières, donc elle est à 80% minière. Et tous ces groupes-là massacrent autour des sites miniers qui sont exploités en Ituri.
On va donner la parole à vous, auditeurs de Radio Capi, vous qui êtes avec nous dans cette salle. On va prendre une première série de 6 questions. Soyez brefs dans vos questions et précis. Vous vous présentez et vous nous dites à qui vous adressez votre question.
Merci, madame. Nous avons quelques préoccupations. Lorsque nous avons suivi le ministre, nous nous sommes rendus compte que le ministre est en train de faire l'état des lieux de bêtises qui se font en Ituri. Alors que lui, il est au pouvoir, il ne peut pas seulement se permettre de faire l'état des lieux de ce genre de choses.
Vous avez oublié de vous présenter, monsieur.
S'il vous plaît, nous appelons Sami Azabo. Nous sommes la jeunesse de l'Ituri, la jeunesse cadre politique de l'Ituri. Alors, nous avons dit que le ministre est en train de faire le tour de la ronde en faisant l'état des lieux, des morts, c'est-à-dire de tous ces groupes militaires, de ces hors-la-loi qui pilulent la province de l'Ituri, dont ils sont les gouvernants. Aussi, en suivant le professeur qui est intervenu, nous nous sommes rendus compte que c'est comme si la question vitale de l'Ituri ne fait pas vraiment leur préoccupation, parce que en tout cas, comme professeur, nous voulions l'attendre à entrer vraiment en profondeur. Parce que lorsqu'on ne dit pas la vérité, on ne saura pas extirper la plaie, soit guérir la plaie, madame. Madame, la MONUSCO est à Ituri. Ça fait depuis 20 ans. 18, 20, 19 ans. Et l'État congolais, il est là. Êtes-vous sûr que si l'État congolais prend la responsabilité d'assurer la paix aux Congolais qui habitent la province de l'Ituri, et l'État dispose de tous les moyens, les chars de combat, les avions de guerre, les drones que la MONUSCO utilise, a ici, dispose. Donc, si on met tous ces moyens et les pieds pour aller vraiment au front, vous voyez ces jeunes gens vraiment tenir devant ça. J'adresse la question aux invités, notamment au ministre et aussi au professeur.
Merci.
C'est ça notre question, merci.
Merci beaucoup, monsieur. Deuxième question.
Merci beaucoup. Moi, c'est Jules Tagirabou de Bounia. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous constatons un retrait de l'armée parce que quand il y avait les éléments de Codeco ici aux alentours des Équerre, il y avait une opération militaire avec des hélicoptères qui a frappé ces éléments-là. Mais actuellement, on constate que ces hélicoptères ne circulent pas et l'armée est presque absente sur terrain. Et c'est comme ça qu'il y a les miliciens qui continuent à faire des exactions, à faire des incursions là et du village. Pourquoi ce relâchement de la part de celui de sécurité, étant donné que le ministre fait membre du comité provincial de sécurité?
Merci.
Merci, c'est Jérémy Lomago de l'Ituri. Ma question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons suivi la présentation de la cartographie des forces négatives. Nous attendons que le ministre ne pouvait dire plus que ça, parce que c'est ce qu'il lui-même vit ici à Ituri. Ma question est de savoir, la première question, qu'est-ce qui est à la base de cette persistance? De deux, qui profite de cette insécurité? Parce que nous avons suivi madame de la société civile dire qu'il y a des mains invisibles derrière ça. La troisième question, c'est juste au professeur, parce qu'il a évoqué d'abord les variables en rapport avec tout ça. Ma question est de savoir quelles sont les raisons de cette persistance ou des persistances de cette insécurité. Et aussi, beaucoup plus de précision, nous le savons très bien, dire que ces miliciens n'ont pas de caractère communautaire. Moi, je pourrais dire que c'est faux. Temple de FPIC, nous savons que non, c'est tel groupe. Quand on parle de Codeco, nous savons que c'est telle communauté. Quand on parle par exemple de Zaïre, c'est telle communauté. Disons-nous la vérité. Nous avons marre de ça. Merci.
Merci. Madi Mangaza, chargé de la communication à l'Alliance missionnaire pour la PNRDC. J'ai une question qui s'adresse à la dame de la société civile. Madame, vous venez de dire, je répète vos propos, vous venez de rejeter la faute au gouvernement central qui détient le monopole de la sécurité. Vous pensez vraiment que cette faute-là ne revient qu'au gouvernement central, donc le gouvernement provincial est pour rien dans tout ça?
Ça sera la dernière question de la première série. Allez-y rapidement.
Merci pour la parole. Moi, c'est Salbou Menelik, un habitué de cette émission. Moi, je veux parler concernant la démobilisation parce que ça pose sérieusement des problèmes. Je m'adresse directement au ministre. Quand seulement 31 miliciens de la FRP déposent les armes, sur combien au total? N'est-ce pas, cet non-encadrement de ces 31 éléments seulement peut décourager toutes les milices de l'Ituri de déposer les armes? La deuxième question concerne la question des ADEF, qui est presque liée au Banyabwisha. C'est aussi au ministre que je m'adresse. Qu'en est-on avec l'identification des Banyabwisha dans la zone de Boga et Chabi? Merci.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Brièvement, vous allez répondre à toutes ces préoccupations. Pourquoi ce relâchement de l'armée, 31 miliciens qui ont déposé les armes, sur combien? Est-ce que ça ne va pas décourager les autres miliciens qui veulent déposer les armes, mais suite au non-encadrement de ceux qui ont déjà déposé, est-ce que ça ne va pas décourager?
Merci beaucoup, madame. Je pense que le premier intervenant, monsieur Sami, il n'a pas posé une question, plutôt il a donné des suggestions pour laquelle je le remercie. Effectivement, l'État ne peut pas se dérober de ses missions régaliennes. L'État fait tout pour protéger la population. Par rapport au relâchement, je sais pas ce que l'intervenant voudrait attendre par le relâchement. Il est vrai que les forces armées de la République démocratique du Congo sont les unités qui sont sur terrain. Madame, si vous avez vu que un des intervenants a reconnu la presse militaire sur la branche de Codeco ALC dernièrement, ce n'est pas un fait de hasard. Je voulais informer publiquement les auditeurs et que cette presse a été aussi le fruit ou le résultat de nos hommes en uniforme. Il est vrai que en Ituri, les gens ont une mauvaise interprétation des fois des FARDC parce que beaucoup estiment que les FARDC sont seulement les éléments militaires qui sont ici, oubliant que dans les FARDC, il y a plusieurs unités. À ces derniers temps, pour votre information, effectivement, il y a eu les unités des forces aériennes qui étaient déjà ici, qui ont abattu un travail louable. Au-delà de ça, il y avait aussi des unités des Zibou. Il y a les unités des commandos qui sont ici, ils sont sur terrain. Ne pas reconnaître le travail qu'ils sont en train d'abattre, c'est le manque de patriotisme, excusez-moi le terme. Aujourd'hui, ils sont partout, éparpillés partout à Irum, partout à Anjougou, parce que ce sont les deux territoires criminogènes pour le moment, pour lesquels nous assistons souvent régulièrement à des morts.
Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec
il n'y a pas un relâchement.
Il n'y a pas de relâchement.
Il n'y a pas un relâchement. La preuve en est que nos forces sont au front.
Alors, par rapport à la démobilisation, monsieur le ministre.
La démobilisation, c'était processus. Nous avons dit ici et maintenant que s'il y a eu arrêt au niveau de démobilisation, j'ai donné la raison essentielle qui est liée aux moyens. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Moi, je suis d'accord avec madame de la société civile qui dit que le gouvernement central a une grande responsabilité. Nous devons le dire à face. S'il n'y a pas de moyens conséquents pour la démobilisation et la réinsertion communautaire, c'est déjà un problème pour lequel les autorités du pouvoir central doivent prendre leurs responsabilités. Le gouvernement provincial fait son mieux avec des petits moyens. Aujourd'hui, si vous voyez au niveau des FRPI, le gouvernement provincial intervient de temps en temps. C'est à renfort, c'est en appui aux efforts que le gouvernement de la République est en train de mener pour aboutir à ce processus. Voilà aujourd'hui qu'il y a un problème relatif aux moyens. Nous ne pensons pas que ça pourrait perturber le reste de la, du processus. Nous sommes confiants. Il nous appartient de demander avec insistance auprès du gouvernement de la République pour que ces derniers puissent débloquer des moyens importants afin que le processus puisse aboutir. Parce que l'échec de ce processus peut aussi avoir des conséquences énormes sur le vécu quotidien de notre population.
Merci, monsieur le ministre. Professeur, rapidement, vous réagissez à la préoccupation de monsieur qui n'est pas d'accord avec vous sur la communautarisation ou non des groupes armés.
Bien, je n'ai pas dit que ces groupes n'ont pas de connotation communautaire. Moi, je, par contre, dis qu'il n'y a pas communautarisation. Ça, c'est là. C'est la précision que je voulais apporter. Ces groupes armés ont des connotations communautaires parce qu'ils prétendent évidemment agir au nom, n'est-ce pas, de leur communauté. Mais l'argument qui me paraît farfelu, c'est le fait qu'on dise que certaines communautés irtouriennes disposent de groupes armés. Là, je pense que ça ne résiste pas à la raison. Alors, revenons à la question qu'il a posée par rapport aux facteurs qui alimente la persistance d'insécurité.
Ça est bref, hein, professeur.
Je l'avais déjà dit, une question liée à l'absence de l'autorité de l'État qui profite au mouvement subversif. Au chat, je le dis tantôt, ces jeunes qui ne sont ni encadrés, n'est-ce pas, qui ne sont ni pris en charge, ils constituent une main-d'œuvre aux entreprises subversives, mais aussi la question du faible contrôle, n'est-ce pas, de la circulation illicite d'ALPC, armes légères et de petits calibres, la déshérence de l'autorité de l'État. Donc, il y a des pans entiers du territoire de l'Ituri où l'État n'existe pas. Et les groupes armés qui sont entrés aujourd'hui de semer la terreur et la désolation, ils le font exactement là où l'autorité de l'État est gravement absente. Et rapidement, pour terminer, je voudrais aussi répondre à la préoccupation de Sami Azabo qui pensait que si on mobilisait tous les moyens, y compris le pied, on mettrait un terme à l'activisme des groupes armés. Je pense qu'il faudrait plus tomber dans le piège selon lequel la sécurité implique uniquement les actions militaires. J'ai dit que nous avons la question de chômage à laquelle l'armée ne répond pas. Voyez-vous, c'est très important. Mais aussi, les dynamiques sécuritaires en RDC ne doivent pas être abordées en interniste. C'est-à-dire, il faudrait pas seulement voir ça comme étant des dynamiques n'ayant des implications uniquement qu'internes. Nous avons aussi des implications externes, n'est-ce pas, de ces dynamiques pour lesquelles il faudrait que le gouvernement central puisse activer sa politique étrangère. Donc, il faudrait également ouvrir le front diplomatique, aller également sur le plan, sur la scène internationale pour parvenir évidemment à obtenir le fait que les multinationales, mais aussi certaines puissances étrangères qui soutiennent ces mouvements subversifs, arrêtent de le faire.
Merci, professeur. Il y avait une question sur les ADF. Monsieur le ministre, vous y répondez rapidement. On va donner la parole à Marie-Noëlle Nialoka qui a aussi des questions qui lui ont été posées.
Merci beaucoup, madame. Évidemment, la question des ADF, on doit traiter cette question sous plusieurs dimensions. La première dimension, elle est sous-régionale parce que les ADF sont des forces étrangères et au niveau de la sous-région, il faut aller même voir la dimension internationale. Aujourd'hui, vous allez constater avec moi, lorsqu'il y a eu la libération de quelques prisonniers dans la prison centrale de Beni, vous avez vu la réclamation était un niveau international. Cela a été réclamé par Daesh. ça prouve à suffisance que les ADEF sont nuisibles, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Raison pour laquelle, que ce soit au niveau du pouvoir central, que ce soit au niveau de la sous-région, au niveau des CIRGEL, je pense que tous les intervenants ont intérêt à mettre sur pied un mécanisme pour bouter hors d'état de nuire ces gens. Par rapport à l'identification, madame, évidemment, le gouvernement provincial a fait un travail pour l'identification des Banyabouches. Dernièrement, je reviens de Goma. Nous avons rencontré la communauté des Hutus qui sont venus plaider la cause de ces Banyabouches. Raison pour laquelle peut-être nous aurons le temps avec nos compatriotes qui sont ici, voir quelles sont les dispositions pratiques que nous avons mis sur pied afin d'éclairer la religion de nos compatriotes sur les dossiers d'identification des Banyabouches et des Bakonzo. Merci.
Merci, Monsieur le ministre. Marie-Noël Nialoka, à qui profite cette insécurité? Préoccupation d'un auditeur dans la salle.
Merci, madame, pour la question. Pour la parole, plutôt, il y a une auditrice qui me demande est-ce que nous pensons que la question de la sécurité relève exclusivement du gouvernement central et que le gouvernement provincial
n'est pas responsable.
N'est pas responsable. Moi, je pense que je l'ai dit dans mon intervention, que le gouvernement central est représenté en province par le gouvernement provincial. Et vous allez vous souvenir, le jour où le groupe armé Codeco a fait son incursion à Ville de Bougna, c'était le 5 septembre dernier, le 4 septembre 2020, c'était sous les barbes du comité provincial de sécurité. Ils ont été traités à pleine ville au vu de la paisible population comme les princes par le comité provincial de sécurité. Ils ont imposé leur loi qui a été d'ailleurs respectée par les dits comités provinciaux de sécurité. Nous allons dire à madame que ce comité provincial, le gouvernement provincial n'est pas également épargné parce que c'est ces derniers qui représentent le gouvernement provincial à province. Merci.
Alors, par rapport à la question sur la communautarisation des groupes armés,
nous ne partageons pas les mêmes points de vue, effectivement, avec ceux-là qui pensent que les guerres en Ituri sont communautaires. Bien que on utilise, nous l'avons dit, on instrumentalise certaines communautés, effectivement. C'est une instrumentalisation. Il ne s'agit pas d'une communauté qui s'engage pour faire la guerre ou pour massacrer la population en Ituri. Mais plutôt, il y a une main noire qui se range pour manipuler, instrumentaliser certains jeunes, particulièrement d'une ou d'autres communautés, pour permettre à ceux qu'ils puissent se cacher. Vous allez voir avec nous, il y a plusieurs langues qui semblent prêcher partout que la guerre en Ituri est soit communautaire. C'est pourquoi le gouvernement, même dans ses actions, vous allez comprendre qu'il y a des actions liées au dialogue. Et nous nous posons la question, au dialogue avec qui? Qui dialogue avec qui? Qui est en guerre contre qui? Quelle communauté fait la guerre contre quelle communauté? C'est là où nous pensons qu'il n'y a pas une guerre communautaire en Ituri, mais plutôt il y a instrumentalisation de certaines communautés pour massacrer la paisible population.
Comment mettre fin à ce cycle d'insécurité dans la province de l'Ituri? Est-ce que dans les publics, vous avez des propositions à faire sur comment on peut mettre fin à l'insécurité dans la province de l'Ituri? Dona Madimba va promener le micro. On va prendre 3 ou 4 propositions et on va revenir pour donner la parole aux invités qui vont conclure aussi, mais aussi proposer leurs solutions. Allez-y, monsieur.
Oui, moi, c'est Modjima Katala Christophe. Je suis de la presse écrite. Je voulais évoquer un cas que les intervenants n'ont pas eu à rachérir dans leur intervention.
Allez-y brièvement, nous sommes déjà dans les solutions.
Les problèmes concernant les exploitants miniers, notamment les Chinois, qui s'entretiennent avec les dirigeants de l'État, soit en province, soit au niveau national, qui d'ailleurs descendent sur terrain au niveau local dans des zones minières pour tromper la population avec des cahiers de charges et avec des accords qu'ils ne réalisent pas jusqu'à la fin. C'est là, après leur départ, ils laissent des conflits dans des communautés. Il y a eu d'ailleurs des cas de mort ici dans la zone minière de Mambasa, notamment même aussi du Rhum ici. Ce sont des cas qu'il fallait aussi dénoncer. S'il faut prévenir, s'il faut même résoudre le problème sécuritaire en Ituri, il fallait faire partir ces Chinois pour donner une solution au problème de l'Ituri. Merci beaucoup.
Je suis Christian Chaouri, jeune leader de la province. Je m'en vais proposer afin que les militaires puissent agir parce que quand il y a des négociateurs de la paix, c'est contradictoire à ce que venait de dire le ministre, qu'il y a déjà les militaires qui sont au front. Donc il faudrait une solution militaire, mais aussi il faudrait qu'ils puissent dénicher les complices qui sont dans l'armée, tout comme dans les gouvernements, qui se cachent, mais aussi qu'on s'écarte de l'hypocrisie, parce que chez moi c'est incompréhensible qu'on nous dise présentement qu'il n'y a pas de problème communautaire, pendant qu'il y a des groupes appelés G5 qui séduisent groupes de victimes, alors d'une communauté, de certaines communautés bien sûr. Et comment expliquer qu'il n'y a pas de problème communautaire? Et donc, ici, ça demande qu'on se lave de l'hypocrisie, qu'on séduise de la vérité. Mais aussi, au niveau du ministère, je demanderai à ce que le gouvernement provincial cesse avec certains messages qui créeraient aussi des conflits, qui souleveraient certaines tensions dans certains territoires, qui seraient à la cause de l'insécurité. Mais aussi d'être toujours à côté de la population, parce que c'est un danger quand vous attendez les problèmes sécuritaires ici en province, et surtout les gens des droits de l'homme. Les gens des droits de l'homme, je les recommande de ne pas voir seulement l'activisme des droits de l'homme pendant qu'on est en train de tuer les miliciens, mais qu'ils voient les droits de l'homme pendant qu'on est en train de tuer aussi les civils. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, c'est Jusqu'à Kanda, je suis journaliste. Et je propose qu'on arrête de dire qu'il y a une guerre entre les communautés. C'est cette erreur-là qui fait qu'on ne peut pas résoudre la question. Il n'y a pas de guerre, il y a des massacres. Quand les gens se réveillent un matin, ils vont tuer des civils sans armes. Ils ne s'affrontent à aucun groupe. Nous avons affaire aux gens qui massacrent. Il ne faut pas parler de la guerre. Il faut vraiment que les gouvernements provinciaux, les gouvernements nationaux changent de langage. La deuxième chose, doit être très regardant dans l'armée. Vous avez suivi Mme Marine Noëlla dire ici, on a arrêté à Bounia ici une dame qui avait des munitions dans des bidons, dans une zone où il n'y a aucun magasin de vente d'armes. Donc quelque part, il faut qu'on surveille les dotations qu'on donne à l'armée. Est-ce que ça arrive au front ou bien ça disparaît à un moment donné? Il faut qu'on veille aussi à l'enrichissement sans cause des officiers militaires. Ils viennent en Ituri, au bout d'un mois, ils ont des hamas, ils ont des immeubles, ils ont des maisons en étage. Cet enrichissement vient d'où? Ce sont ces choses-là qu'on doit regarder. Au niveau des communautés, ce qui dit la sécurité, c'est quoi? C'est quand on invite la communauté dans l'insécurité. Un groupe a pris les armes, je peux prendre les armes moi, mais puisqu'on dit que je suis de telle communauté, ma communauté a tendance à me protéger, alors que je suis un criminel. Donc si on enlève cette histoire d'inviter la communauté dans les conflits et qu'on traite les malfaiteurs comme malfaiteurs sans voir leur communauté, on peut résoudre la question.
Merci, Monsieur Josca. De dernières propositions pour mettre fin à la sécurité en Ituri. Oui. Allez-y, monsieur.
Oui, moi, c'est Monsieur Massoudi Célestin. Je suis le président de la société civile de Badengaïdo, dans le territoire de Mambasa. Alors, ma préoccupation...
Vos solutions, vos propositions.
Mes propositions, quant à moi, chez nous, à Badengaïdo, par exemple, dans le territoire de Mambasa, nous avons des carrières, par exemple, la carrière de Mouchacha, qui existe dans ma juridiction. La solution, c'est, par exemple, les militaires sont sur le front. Alors, il faudrait d'abord qu'on puisse un peu renforcer d'abord les militaires, parce qu'on a peu de militaires sur le terrain, voire même avant-hier. Donc, il y avait des maïmaï qui sont arrivés jusqu'au niveau de Badengaïdo, même au niveau du marché. Alors, le nombre de militaires qui sont sur chez nous à Badengaïdo sont peu. Donc moi, j'ai voulu qu'on puisse un peu renforcer encore les militaires dans les villages de Badengaïdo et partout d'ailleurs dans les environs. Les groupes armés naissent au jour. À Badengaïdo, Mouchacha, il y a aussi des braconniers qui sortent de la RFO. Donc partout là, il faudrait renforcer encore
les militaires. Donc renforcer la présence militaire. Merci voilà. Beaucoup, monsieur.
Bon. Merci. Moi, c'est Gentil Kanik, le président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri. Ma proposition est sur base des observations. Vous savez, madame, ça fait plusieurs années, le massacre répète toujours ici, en province de l'Ituri. Le constat est que
Vous savez, le gouvernement entreprend les actions pour finir la guerre, mais le gouvernement oublie une chose, le changement des mentalités. Donc, il faut que le gouvernement prenne en considération l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Ça peut aider la population iturienne, surtout la jeunesse, de changer sa façon d'observer et de comprendre. Aujourd'hui, si elle sera manipulée, c'est parce que cet aspect-là n'est pas pris en compte. Il faut apprendre aux gens l'amour de patrie. Et il faut apprendre aux gens l'amour de son pays. C'est très important. Deuxièmement, vous savez, c'est la jeunesse qui est plus manipulée, elle est impliquée suffisamment, mais aussi il faut que l'implication de la jeunesse soit un peu pratique dans la pacification. Et ça peut aider les jeunes de changer leur façon de penser, de changer leur façon de concevoir et puis investir dans les choses de valeur. Merci.
Merci beaucoup. On a envie d'entendre les femmes. Vous n'avez pas des propositions à faire, chères dames qui êtes dans la salle? Pas des propositions, mesdames? Apparemment, elles n'ont pas des propositions à faire. Alors, monsieur le ministre, vous avez suivi toutes ces propositions faites par les auditeurs dans la salle. J'espère que vous allez en tenir compte. Mais vous, pour vous, quelle est la solution, meilleure solution pour mettre fin à l'insécurité dans la province de l'Ituri?
Merci beaucoup, madame. Parmi les meilleures solutions, c'est d'abord la neutralisation de toutes les forces négatives. C'est très important. Et puis, il faut voir maintenant comment on peut arriver à organiser un programme de DDR et DDRC afin de s'occuper de tous ces jeunes gens qui ont pris l'autre fois les armes après leur démobilisation, offrir des opportunités d'emploi. C'est très important.
Merci, monsieur le ministre. Professeur Chaubert Guenonga, vos propositions.
Pour planter durablement le havre de paix en Ituri, il est fondamentalement important de commencer par la restauration de l'autorité de l'État. Et comme je le disais tantôt, c'est cette absence de l'autorité de l'État qui, évidemment, profite à des mouvements occultes, c'est-à-dire à des mouvements subversifs. À cela, il faudrait ajouter certainement le renforcement du contrôle des ALPC, et parce que on ne sait pas comment est-ce que les armes légères de petit calibre circulent dans cette province, parce que on se rend compte de plus en plus ces armes légères deviennent nombreuses et elles sont utilisées également dans l'insécurité qui gangrène l'Ituri. Il faut parvenir également à lutter contre le chômage de masse. Donc je t'ai en train de dire tantôt que tous ces jeunes-là qui aujourd'hui se retrouvent dans les groupes armés, ils sont clochardisés, ils sont sans emploi. Et c'est ce qui les prédispose également au risque de mordre à la maison des mouvements subversifs. Et la question des routes, les infrastructures, il faudrait aborder ça également. Nos réseaux routiers sont dans un état de putréfaction très avancé, à tel point que même si on envoyait le militaire le plus attitré au front, avec ces véhicules, il ne sera pas en mesure de faire grand-chose. L'insécurité en Ituri est liée aussi aux dynamiques sécuritaires régionales. Il y a des implications extérieures, n'est-ce pas, à ces menaces sécuritaires. Et pour ça, il faudrait absolument que l'État congolais puisse repenser les axes de sa politique étrangère, entendu, comme le dit un auteur, James Rosenos, que l'État pour l'environnement extérieur en vue de réduire les menaces ou le risque et de maximiser les opportunités ou le profit.
Merci, Madame Nyaloka. Vos propositions?
Merci pour la parole, Madame. Au-delà des propositions...
De tout ce qui a été dit dans la salle.
De tout ce qui a été dit dans la salle, nous allons juste ajouter quelques-unes. Nous demandons l'arrivée express du chef de l'État, comme il a annoncé dernièrement qu'il va rejoindre le Nord Kivu. Il va déloger sa base à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour qu'il contrôle lui-même l'Est, tout l'Est de la RDC et en particulier l'Ituri. Nous allons encore demander au chef de l'État de diligenter une enquête minutieuse au sein de l'armée afin de dénicher les coupables. La troisième proposition, c'est d'organiser des audiences foraines par le gouvernement provincial pour traduire à justice ces personnes qui seront coupables également. Et enfin, il faut traduire des personnes impliquées de près ou de loin dans les massacres de la population à justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre provincial Adji Yogidi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation malgré vos nombreuses occupations. Professeur Chaubert, merci également d'être venu. Madame Nyaloka de la société civile, grand merci d'avoir participé à cette émission, mais surtout à vous, habitants de Bounéa, qui êtes dans la salle avec moi. Merci beaucoup d'être venu pour participer à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.